Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. L'opposition appelle Vlasta Parkanova à renoncer à son poste de vice-présidente de la Chambre des députés. L'ancien dissident et porte-parole de la charte 77, Jaroslav Chabata, est décédé à l'âge de 84 ans. Ouverture du Festival international de musique, la Litomyshl de Smetana. Le Parti social-démocrate, premier parti de l'opposition, appelle Vlasta Parkanova à quitter son poste de vice-présidente de la Chambre des députés et éventuellement à renoncer à son mandat de députée, au cas où elle serait poursuivie en justice. Ancienne ministre de la Défense, Vlasta Parkanova est soupçonnée par la police anticorruption d'abus de pouvoir lors de l'achat douteux de 4 avions militaires espagnols CASA. L'achat de ces avions avait été approuvé en 2009 par la coalition gouvernementale du premier ministre Mirek Topolánek peu avant sa démission. Ce jeudi, lors d'une conférence de presse, le président du Parti social-démocrate, Bohuslav Sobotka, a indiqué que les circonstances de l'achat des avions CASA ainsi que d'autres commandes militaires opaques devraient être examinées par le tribunal. De même, les sociodémocrates appellent à la responsabilité 6 ministres de l'actuel gouvernement qui avaient décidé en 2009, au même titre que Vlasta Parkanova, de l'achat de ces avions. Parmi eux, le premier ministre Petr Nečas et le ministre des Finances, Miroslav Kalousek. Plus de détails sur l'affaire dont faisait événement en République tchèque. Les ministres de la Défense tchécoslovaques Aleksandr Vondra et Martin Glváč ont signé ce jeudi à Prague une déclaration sur le renforcement de la coopération des armées des deux pays. À l'issue de la signature du document, le ministre slovaque a précisé que celui-ci réagissait à la crise économique actuelle. La déclaration prévoit entre autres la formation commune de pilotes ou l'achat du matériel militaire, mesures qui permettront aux deux pays de réaliser des économies. Et les deux ministres ont également souligné l'importance de la collaboration des armées tchécoslovaques en cas d'accident grave et de catastrophe naturelle. Ancien dissident, signataire et porte-parole de la charte 77, document fondateur du mouvement dissident tchécoslovaque sous le régime communiste, Jaroslav Chabata est mort dans la nuit de mercredi à jeudi dans un hôpital de Brno des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 84 ans. Politologue de formation, Jaroslav Chabata avait intégré le parti communiste tchécoslovaque après la guerre. Il avait été un de ses membres les plus actifs dans son processus de réforme et de relative libéralisation en 1968. Le Conseil national des seniors, qui a organisé le 30 mai dernier à Prague une manifestation des retraités contre la réduction de leurs pensions, envisage d'organiser d'autres protestations. Celles-ci pourraient se dérouler en septembre et en octobre prochain dans les régions tchèques. L'information a été communiquée ce jeudi par le président du Conseil, Zdeněk Pernes. La manifestation pragoise, la première du genre en République tchèque, a rassemblé plus de 1500 retraités et personnes handicapées, plus de 23 000 personnes âgés ont déjà signé une pétition contre la réduction de la valorisation des pensions de retraite. Celle-ci vient d'être approuvée par la Chambre des députés. C'est par un concert de l'Orchestre philharmonique tchèque et du pianiste et compositeur turc Fazil Say que s'ouvre ce jeudi soir la 54e édition du Festival international de musique d'opéra et classique Smetanova Litomyshl, la Litomyshl de Smetana. Située en Bohême de l'Est, Litomyshl est la ville d'origine du compositeur Bedřich Smetana. Une trentaine de concerts figurent cette année au programme du festival pour lesquels les organisateurs attendent près de 30 000 spectateurs. Le festival constitue une des principale manifestation du genre organisée chaque année en République tchèque. Il refermera ses portes le 8 juillet. La météo annonce pour vendredi le retour du soleil, les températures entre 22 et 27 degrés. Le beau temps devrait se maintenir tout au long du week-end, les températures avoisinant les 30 degrés. Vendredi, nous fêterons les vites en République tchèque. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
La police anticorruption demande la levée de l'immunité parlementaire de la vice-présidente de la Chambre des députés tchèques Vlasta Parkanova. Un musée de la gastronomie fait découvrir aux visiteurs l'histoire des arts de la table. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à Jarka Gisiblova qui nous amènera à l'église Saint-Jean-Nepomucène, lieu de pèlerinage à Zelená Hora, site tchèque inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Merci de rester avec nous. Ce mercredi, la police a demandé à la Chambre des députés de lever l'immunité parlementaire de sa vice-présidente Vlasta Parkanova du parti Top 09. Selon les informations ayant filtré dans la presse, elle serait soupçonnée d'être responsable d'un achat d'armes douteux réalisé en 2009. L'attaché de presse de l'unité de lutte contre la corruption et la criminalité financière, Jaroslav Ibehej, a précisé. Cette affaire concerne l'achat d'avions de marque Casa pour l'armée tchèque. Nous avons des raisons de croire que deux infractions ont été commises. En avril 2009, le gouvernement du premier ministre Mirek Topolánek a approuvé, un mois avant sa démission, l'achat de 4 avions militaires Casa fabriqués en Espagne pour 3,5 milliards de couronnes, 135 millions d'euros. Vlasta Parkanova détenait dans ce cabinet le portefeuille de la défense. Déjà à l'époque, cet achat controversé a suscité de nombreuses questions. L'ancien directeur du service d'armement du ministère de la Défense, Jaroslav Štefec, constate. Le choix du type d'avion avait déjà éveillé des doutes, mais aussi le prix et la façon dont tout le projet a été conçu. Selon les informations de la police, l'État aurait perdu dans cette transaction 658 millions de couronnes, 25 millions d'euros, à cause de manipulations frauduleuses. Aujourd'hui, Vlasta Parkanova se déclare choquée, mais ne se considère pas comme responsable de cette affaire. Elle souligne que c'était le cabinet dans son ensemble qui a pris la décision d'acheter ces avions et affirme qu'elle n'a même pas signé le contrat. Selon la police anticorruption, elle n'a cependant pas exigé d'expertise professionnelle sur le prix de cette nouvelle acquisition pour l'armée tchèque. Sa version des faits est confirmée par le ministre des Finances Miroslav Kalousek, qui était en 2009 également membre du cabinet de Mirek Topolánek. Cette décision n'a pas été prise par la ministre Vlasta Parkanova, mais par le gouvernement de République tchèque dans son ensemble. C'est donc notre décision collective et je l'approuve encore aujourd'hui parce que je pense qu'elle était juste. L'avis du premier ministre actuel Petr Nečas, lui aussi ancien membre du gouvernement Topolánek, est plus nuancé. Bien qu'il admette que c'était une décision du gouvernement, il ajoute qu'elle n'a été prise que sur la base d'un document présenté par un membre concret du cabinet. Une fois de plus, après le cas de David Rath, la Chambre des députés se voit donc obligée de décider si elle livrera un de ses membres à la justice. Le représentant du parti Top 09, dont Miroslav Kalousek, semble décider à défendre l'immunité parlementaire de Vlasta Parkanova. Si la police y voyait une infraction et demandait la levée de l'immunité parlementaire de tous les ministres, de nous tous qui avons pris cette décision et sommes aujourd'hui députés, j'accepterais que notre immunité soit levée et que nous assumions notre responsabilité. Je suis néanmoins convaincu qu'il n'y a pas eu d'infraction, mais je ne voterai certainement pas pour la levée de l'immunité d'un seul membre du cabinet pour une décision collective du gouvernement. Les députés du Parti civique démocrate ODS, partenaire du Top 09 dans la coalition gouvernementale, évitent de commenter pour le moment cette affaire, dans laquelle risque d'être impliqué finalement aussi l'ancien chef de leur parti, Mirek Topolánek. Par contre, les partis d'opposition, la social-démocratie, le Parti communiste et Affaires publiques, estiment que les arguments réunis par la police contre Vlasta Parkanova ne manquent pas de logique et qu'elle devrait être livrée à la justice. La commission des mandats et des immunités se penchera sur son affaire dès la semaine prochaine. La décision définitive sur une éventuelle levée de l'immunité de Vlasta Parkanova ne tombera que lors de la prochaine session de la Chambre qui aura lieu en juillet prochain. Il y a quelques semaines a été ouvert dans le centre-ville de Prague un nouveau musée entièrement consacré aux arts de la table. Le musée de la gastronomie se veut à la fois une histoire de nos habitudes culinaires en Europe, mais aussi un lieu où l'on apprendra que manger n'est pas seulement se nourrir, mais aussi un plaisir. Anna Kubišta.
Ve starém a ve středním paleolitu dokázali rozdělat oheň.
C'est vers le paléolithique inférieur et moyen que les hommes commencent à domestiquer le feu. Ils se sont rendus compte que ce qui était cuit avait un autre goût, bien meilleur, et ce d'abord grâce aux incendies de forêt en goûtant des restes d'animaux.
Bienvenue au musée de la gastronomie. La guide explique à un groupe scolaire les tout débuts de l'humanité où l'homme découvre peu à peu la cuisine.
Vous pourrez lire sur les panneaux que l'homme est habitué à manger ce qu'il a à sa disposition. Le goût était différent à l'époque. Ce que nous considérons comme dégoûtant, eux, le mangeaient.
Au musée de la gastronomie, on passe de salle en salle, transporté des grottes préhistoriques aux premières cultures, en passant par les fourneaux médiévaux, jusqu'aux premières cuisinières électriques, qui représentent une petite révolution dans le monde de la cuisine, notamment pour les femmes, longtemps cantonnées au rôle de maîtresse de maison. Ladislav Provahan, créateur du musée.
C'est en effet une révolution à 100%, mais le gaz à partir de la moitié du 19e siècle avait déjà pas mal changé les choses, parce qu'imaginez comme c'était compliqué avec le charbon qu'il fallait apporter, il fallait nettoyer la cendre, sans compter que c'était salissant.
Toutes les étapes chronologiques de l'art de cuisiner sont donc montrées, mais pas seulement. Si le musée prend en compte les grands cuisiniers de l'histoire, nombre d'entre eux étant évidemment français, il entend aussi faire découvrir aux visiteurs les caractéristiques de la cuisine tchèque. Pour ce faire, notamment, une taverne typique tchèque a été reconstituée et même la bière peut y couler réellement à flot. Ladislav Provahan.
La cuisine va de pair avec la boisson. Nous avons donc recréé cette taverne. Ici, nous sommes aux alentours de 1900. D'ailleurs, ce n'est pas très différent de certains établissements à Prague, comme Ufleku, qui ont heureusement conservé leur aspect d'origine. Et à cette occasion, nous rappelons que la bière n'est pas née comme une boisson de plaisir. Elle est née en Égypte, où il fallait trouver un moyen de conserver l'eau pour qu'elle reste potable. D'où l'invention du processus de fermentation.
Kterým se ta voda vlastně čistila.
Si la cuisine tchèque est très influencée par le monde germanique et les plats copieux, de grandes figures ont marqué la gastronomie tchèque comme Magdalena Dobromila Retegova au 19e siècle, en puisant dans d'autres traditions. Ladislav Provahan.
Non, les Français ne budou znát, ale ona znala Francouze.
Les Français ne la connaissent certes pas, mais elle connaissait bien les Français. Son grand apport, c'est qu'elle a intégré sophistication et savoir-faire à la cuisine tchèque.
V tom, že do české kuchyně vnášela sofistikovanost a kulturu.
Une sophistication et un savoir-faire qui ont perduré pendant la première République tchécoslovaque où, tout comme à Paris, la bonne société se rend dans des établissements réputés pour leurs chefs. On dit même que l'on va chez Vanha, chez Vachata. Les guildes des différentes professions culinaires sont à l'époque chargées de veiller au grain pour maintenir un certain standard. Tout ceci sera malheureusement balayé par la guerre et ses conséquences. Alors, si l'on dit que les Français sont réputés pour leur amour de la bonne chère, qu'en est-il des Tchèques aujourd'hui, qui, après près d'un demi-siècle de communisme et de cuisine industrielle, ont vu des restaurants de tout type pousser comme des champignons après 1989. Ladislav Provahan.
Je pense qu'il existe désormais ici plusieurs restaurants qui sont vraiment à la pointe, où les gourmets vont manger et viennent profiter de bons plats. Évidemment, vous en trouverez moins dans la taverne du coin où les gens vont boire de la bière et parler politique. Mais sinon, oui, il y a une vraie évolution dans le rapport à la nourriture.
Voilà, et pour plus d'informations sur ce musée de la gastronomie, je vous propose de vous reporter au site internet www.museumgastronomie.cz.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. 2012, 20 ans, 12 sites, un pays, tel est le slogan de la saison touristique 2012, qui rappelle que 20 années se sont écoulées depuis l'inscription du premier site tchèque sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO.
Ce sont jusqu'à présent 12 lieux ou ensembles de lieux qui ont bénéficié de cette distinction. Visite de l'un d'entre eux, l'église Saint-Jean-Nepomucène, avec Jelka Gisiblova, dans ce nouveau magazine touristique sur Radio Prague.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Classée depuis 1994 au patrimoine de l'UNESCO, l'église de pèlerinage Saint-Jean-Nepomucène s'élève sur Zelena Hora, la montagne verte non loin de la ville de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina, le plateau tchéco-morave. Édifiée sur un plan en étoile, c'est l'œuvre la plus originale de l'architecte Jan Blažej Santini-Eichl, dont le style extrêmement personnel se situe entre le gothique et le baroque. On écoute Marie Dubová, notre guide à Zelená Hora.
Architektem je geniální umělec Jan Blažej Santini-Eichl.
L'architecte de cette église, l'artiste génial Blažej Santini, est issu de la troisième génération d'architectes et tailleurs de pierre italiens, fixés depuis le XVIIe siècle à Prague. Santini a eu la chance d'être reconnu et recherché déjà de son vivant. Bien que mort relativement jeune, à l'âge de 46 ans, il est l'auteur de plus de 60 constructions et reconstructions. Nombre d'entre elles se trouvent dans la région de Žďár, comme le couvent cistercien remanié en château, propriété de la famille Kinsky.
Du haut de la montagne verte, nous bénéficions d'un beau panorama sur les bâtiments du couvent entouré d'un étang. La fondation du couvent remonte en 1252, année où les moines de Zelená Hora près de Nepomuk, dans la région de Plzeň, arrivent à Žďár pour y fonder un nouveau couvent qui hérite du rôle du couvent mère et adopte son nom. Après que le vicaire général de l'archevêché de Prague, Jean de Nepomuk, meurt en martyr en 1393, une vague d'enthousiasme pour son culte commence dans le couvent de Žďár, car Nepomuk était le lieu où le vicaire était né, où il avait été élevé. En 1719, les restes de Jean de Nepomuk font l'objet d'une étude demandée par l'archevêque de Prague qui révèle que sa langue était parfaitement conservée, ce qui est alors interprété comme un signe tangible de sainteté. La même année, soit 10 ans avant la canonisation effective de Jean de Nepomuk, sous le nom de Nepomucène, l'abbé du couvent de Žďár, Václav Vejmlova, décide de construire une église de pèlerinage à la gloire du saint qui montrerait en même temps le lien entre les deux maisons cisterciennes. Les travaux sont confiés à Jan Blažej Santini-Eichl, qui conçoit l'église comme un reliquaire monumental. Son travail est fondé sur le symbole représenté par la langue du saint et la valeur numérologique des chiffres 3 et 5. Le saint est mort à l'âge de 53 ans. La conception originale et la technique de construction parfaite sont typiques pour l'œuvre de Santini, raconte Maria Dubová.
Maître du jeu de l'ombre et de lumière, Santini a aussi un sens parfait de proportions géométriques de l'espace. En plus de tout cela, l'église de pèlerinage de la Montagne Verte a un contenu spirituel extraordinaire. L'impression majeure suscitée par l'intérieur de l'église, c'est son ampleur. L'espace central s'ouvre sur 5 niches. Celle de l'est est occupée par le maître-autel, dessiné par Santini et représentant la montée au ciel de Saint-Jean Nepomucène. Les 5 chapelles de l'intérieur sont des chefs-d'œuvre de la sculpture baroque ainsi que les chapiteaux de la nef de 21 mètres de hauteur. L'abbé Václav Vejmlova, de même que Santini, auquel il a confié la construction de l'église, étaient tous deux fascinés par la Kabbale, soit un courant ésotérique et mystique qui s'est développé depuis la période du Second Temple, et ils ont utilisé ces éléments dans cette construction. Ainsi, la nouvelle église devait représenter un temple céleste, parfait descendu du ciel sur la terre. Le prélat et son architecte ont créé une œuvre sans précédent.
A z jejich společné práce vzniklo dílo, které nemá obdoby.
Les éléments gothiques de l'église Saint-Jean-Nepomucène se réfèrent à la cathédrale Saint-Guy à Prague, où le saint est inhumé. Les formes baroques à la période de sa canonisation. Santini l'a voulu dès le début comme une église de pèlerinage. Le 16 mai 1722, jour anniversaire du martyr, l'église, encore inachevée, est consacrée. Marie Dubová pour un bref rappel de la vie du saint.
Je to český světec, který žil v době gotické a svatořečený byl v době baroka.
Jean-Nepomucène est un saint patron tchèque qui a vécu à l'époque gothique et qui a été canonisé à l'époque baroque. Vicaire général de l'archevêque Jean de Jansteyn, Jean-Nepomucène a été mis à la torture par le roi Wenceslas IV pour avoir confirmé l'élection du nouvel abbé de Cladbruby contre la volonté du roi. Le corps de Jean a été jeté dans la Vltava et repêché un mois plus tard. Selon la légende, une couronne à 5 étoiles est apparue à ce moment au-dessus du corps du martyr noyé. Et c'est cette couronne à 5 étoiles qui est devenue l'un des symboles de Jean, ornant ses statues dont la plus connue se trouve sur le pont Charles. Le processus de canonisation a commencé plus de 300 ans après sa mort. Lors de l'examen de sa dépouille, une commission réunie par l'archevêque de Prague a retrouvé une matière dont elle croyait que c'était la langue de saint. Ce constat a encore accentué une autre légende selon laquelle Jean, confesseur de l'épouse du roi, est mort pour ne pas trahir le secret de confession de la reine Sophie.
Considéré comme un miracle, la trouvaille de la langue a accéléré le processus de canonisation qui a abouti en 1729. La couronne à 5 étoiles apparue, selon la légende, au-dessus du corps du martyr noyé a inspiré Santini dans l'élaboration de tous les plans selon la symbolique de l'étoile à 5 branches, raconte Marie Dubová.
Samotný chrám je postavený do tvaru pěticípé hvězdy.
L'église est construite en forme d'étoile à 5 branches. On y entre par 5 portails et dedans on trouve 5 chapelles et 5 autels. Le pentagone apparaît également sur les dalles d'origine. Au-dessus de la chaire, on aperçoit une langue monumentale, symbole du saint, ainsi que le symbole des 5 étoiles. Ces mêmes symboles se répètent encore au sommet de la coupole. À l'intérieur de celle-ci, on trouve une étoile en stuc et 10 branches. L'effet des symboles est parfois accentué par le multiple du chiffre 5. Le plan de l'église comporte 2 groupes de 5 axes radiaux à partir desquels s'organisent les différents éléments. Dans le dessin du cloître, les 10 rayons qui se recoupent au centre de l'église déterminent l'emplacement des chapelles et des portes. L'extérieur de l'église se présente comme un corps en forme d'étoile avec 5 pointes rayonnant depuis le centre. Sur le maître-autel, Jean-Nepomucène, représenté sur un globe monté au ciel, accompagné de 5 grands anges et 3 petits anges. Ces chiffres symbolisent la date du martyr de Jean, âgé de 53 ans, au moment de sa mort.
Jistě poznáte podle andělů, že mu mělo být 53 let.
L'église demeure un centre de pèlerinage majeur depuis sa fondation jusqu'en 1784, année où le couvent cistercien est aboli par l'empereur Joseph II. La même année, un incendie ravage l'église. Les travaux de reconstruction sont autorisés 8 ans plus tard, à condition que le cloître serve de cimetière. Les tombes de cette époque existent encore sur place, mais elles devraient être déplacées d'ici à 2016, et le complexe devrait retrouver son aspect d'origine. Des travaux de réaménagement se poursuivent depuis 2008 où la colline a été déboisée et l'église constitue depuis une dominante visible de loin, comme c'était le cas au moment de sa fondation. Des pèlerinages ont lieu à la Montagne Verte tous les ans, le 16 mai, jour de fête de Saint-Jean-Nepomucène. Des concerts y sont aussi donnés régulièrement.
Jak Terka Gisiblova nous a amenés à l'église Saint-Jean-Nepomucène, liée de pèlerinage à Zelena Hora, site tchèque inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Merci d'avoir suivi cette émission et d'être fidèle à Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.